Zamba.
Zambia sta Milana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir, nous sommes dimanche 23 juin 2023, c'est le grand rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée à la présentation. Vous êtes avec Bonfils Niongere. Ouvrons cette rétrospective par le chapitre de la justice. Les organisations de défense des droits humains devraient appuyer les victimes des massacres de Bugendana de 1996 dans la recherche d'une justice internationale capable de réprimer les auteurs. C'est un appel de l'association AC Génocide de Chirimoso, section Suède et Canada. Ils l'ont exprimé à travers une déclaration sortie ce vendredi dernier à l'occasion du 27e commémoration des massacres des Tutsis du site de déplacés de Bugendana commis dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996 par la rébellion du CNDD-FDD. Docteur Emmanuel Nkurunziza, secrétaire général de AC Génocide de Chirimoso, section Canada, tranquillise les victimes que tôt ou tard, elles obtiendront justice. Suivez-le.
Nous inclinons d'abord devant la mémoire de ces victimes, rappelant qu'ils ont été tués juste pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire parce que c'était des Tutsis. Et bien sûr, nous reconnaissons, nous déplorons le fait que dans la foulée, ont été tués également des Hutus innocents qui avaient été pourchassés de leurs biens, de leurs terres, parce que appartenant au parti d'opposition d'alors, le parti Uprona. Nous profitons également de l'occasion pour rappeler que même si les auteurs de cet opprobre sont connus, car ayant revendiqué à plusieurs reprises cette attaque, ils restent impunis et pire, ils sont au pouvoir et malheureusement, c'est le résultat d'un processus dit de paix où des négociations politiques appuyées par l'ONU ont fermer l'œil sur ce qui est honni ailleurs, c'est-à-dire admettre que des terroristes et génocidaires identifiés par une commission des Nations Unies soient admis comme partenaires politiques normaux et ainsi se retrouvent, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé sous la coupe de ce régime dirigé par une organisation ayant commis le génocide non seulement au Burundi mais également dans la sous-région parce que c'est encore une fois l'occasion de le rappeler, le CNDD-FDD au pouvoir indûment au Burundi a signé des accords de coopération avec les ex-FAR, les Interahamwe, c'était le 21 mai 1995 pour parfaire le génocide et au Burundi et au Rwanda. À cette occasion donc, nous profitons également pour encourager les victimes et les autres survivants des crimes d'organisation au pouvoir aujourd'hui à ne pas se décourager, même si les bourreaux sont au pouvoir, on finira par avoir un état de droit, et c'est pour cela que, en outre, nous encourageons ces victimes et les autres membres des organisations qui ne tolèrent pas l'impunité du crime de génocide à poursuivre la démarche déjà entamée de rassembler les données, les témoignages et autres signes qui montrent le génocide perpétré au Burundi contre les Tutsis, pour que le moment venu, nous soumettions cela à une sévère véritablement national.
Justice, on y est, on y reste. Les magistrats qui ont siégé dans le dossier d'élève Christelle Ndayishimiye ont été distraits lors du jugement qu'ils ont rendu. Ils ont condamné la jeune fille à une peine d'un an d'emprisonnement, l'accusant d'avoir violé le secret professionnel alors qu'elle avait alerté sur le harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part de son directeur d'école. C'est la ministre de la Justice, Domine Banyanimbona, qui a fustigé l'attitude des magistrats lors d'une descente qu'elle a effectuée jeudi dernier à Kirundo pour s'enquérir de ce dossier. Suivez la ministre de la Justice, Domine Banyanimbona.
Ce que nous avons retenu dans l'ensemble est qu'il y a eu des problèmes au niveau de différentes audiences, ce qui a fait que ce dossier a circulé sur les médias et réseaux sociaux. Des informations de mauvais goût qui n'étaient pas bon à entendre et à avoir. Les autorités judiciaires d'ici, nous les avons prodigués de conseils comme quoi ils doivent travailler avec courage et détermination et mettre de côté la distraction. Ce que nous avons constaté dans la décision qu'ils ont prise et qui a circulé dans le monde entier, il y a une distraction entre eux. Ils ont été distraits, ils n'ont pas suffisamment échangé des idées. C'est ainsi que nous leur avons prodigué de conseils pour qu'il n'y ait plus une prise de décision judiciaire émaillée de distractions. Par contre, qu'ils serrent la ceinture et redoublent d'efforts pour faire face à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Nous avons l'espoir qu'ils tiendront compte des conseils que nous leur avons donnés. Ainsi donc, nous nous sommes séparés après les échanges et conseils pour que pareilles situations ne se reproduisent plus.
Les propos de la ministre de la Justice, Dominique Nimbona, ne tiennent pas debout. Une écolière ne peut en aucun cas être accusée de violation de secret professionnel alors qu'elle n'est pas fonctionnaire. Cela sans une certaine complicité. Propos de maître Jean-Claude Niboulmoussi, chargé des questions judiciaires au sein de l'Action catholique pour l'abolition de la torture à Katburundi. Suivez-le.
Ce n'est pas une simple erreur de qualification. On ne peut pas entendre comment on peut qualifier de violation de secret personnel pour un élève qui triche pendant l'examen. Ça n'a aucune explication. Le fait d'ordonner aussi une détention préventive prouve à suffisance qu'il y avait une volonté délibérée de la punir. Important de rappeler que le fait de commettre une infraction ne justifie pas toujours l'emprisonnement. La loi énumère limitativement les conditions pour lesquelles la détention préventive doit être appliquée. Il s'agit en fait d'une exception, car la liberté étant la règle. Le ministre devrait plutôt fouiller, enquêter en profondeur les motivations des juges pour commettre ces erreurs et punir conformément à la loi pour décourager cette pratique. C'est d'ailleurs inexplicable qu'une affaire de tricherie en classe prenne une telle ampleur. Normalement, le règlement scolaire tranche cela. Pourquoi une intervention du parquet? Tout cela prouve qu'il y a une motivation derrière. C'est ce qu'il faut enquêter et fouiller en profondeur.
Inzamba. Au chapitre des droits de l'homme, disparition du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu il y a exactement 7 ans. L'Union burundaise des journalistes IBJ dit que ses confrères journalistes burundais ne cesseront jamais de réclamer justice. Alexandre Niyungeko, son président, demande au gouvernement burundais de sortir de son silence afin de mettre de la lumière sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana. Je vous propose d'écouter Alexandre Niyungeko, il est le président de l'Union burundaise des journalistes IBJ.
7 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition forcée de notre confrère Jean Bigirimana. À cette occasion, l'Union burundaise des journalistes prend cette occasion encore une fois pour réclamer justice pour notre confrère Jean Bigirimana. Il est inconcevable que dans un pays, quelqu'un, un journaliste, puisse être porté disparu et que rien n'y fait et que les auteurs continuent à se la coller douce. C'est très regrettable. Nous profitons encore une fois de cette occasion pour exprimer notre désapprobation, exprimer notre désarroi face à ce crime crapuleux, à ce crime qui reste impuni. Nous appelons encore une fois les autorités burundaises pour qu'ils se penchent sur cette question et que la lumière soit faite et que la justice soit faite. Nous ne nous lasserons jamais de réclamer cette justice et nous sommes confiants que tôt ou tard, cette justice, quand elle sera restaurée, elle va donner la lumière sur ce crime qui nous a emporté un confrère qui a endeuillé sa famille et qui a endeuillé la famille des professionnels des médias, la famille des journalistes. Et cette famille dont nous faisons partie va toujours réclamer cette justice, va toujours continuer à demander cette justice jusqu'à ce qu'effectivement les coupables soient connus et traduits devant les juridictions compétentes.
Dans l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée, c'est aussi cette ordonnance conjointe du ministre de l'Intérieur avec celui des Finances modifiant les tarifs de certains documents délivrés au commissariat général de police et judiciaire. Ces tarifs ont été revus à la hausse d'une façon exponentielle. Des détails avec Signoline Nijimbe.
Cette nouvelle ordonnance signée conjointement par les deux ministres fixe la tarification pour l'obtention de certains documents du simple au triple. L'extrait du casier judiciaire, dont l'ancien tarif appliqué aux nationaux était de 1 000 francs burundais, est désormais fixé à 3 000 francs burundais. Les ressortissants africains, dont l'ancien tarif était le même avec les nationaux, le nouveau qui sera appliqué pour eux est de 5 000, alors que les non-africains passent de 1 000 francs burundais à 10 000. Certains services qui n'étaient pas payés, comme la prise de l'empreinte digitale, la nouvelle ordonnance fixe un montant de 30 000 francs burundais pour les nationaux pour avoir accès à ce service, alors que les ressortissants africains se verront payer 40 000 au moment où les non-africains payeront 50 000 francs burundais. L'expertise judiciaire, dont le service était gratuit, est fixée à 30 000 pour toutes les catégories des personnes qui sollicitent ce service. Ce n'est pas tout, cette ordonnance touche aussi ceux qui cherchent l'autorisation d'immatriculation. Les propriétaires des motocyclettes qui payaient auparavant 1500 francs burundais vont payer avec la nouvelle ordonnance 5000 francs. Pour les tricycles et quadricycles à moteur dont le montant fixe était le même que celui appliqué aux motocyclettes est désormais fixé à 10 000, soit le double de l'ancien tarif. Il en est de même pour les véhicules et autres engins où les tarifs ont été revus à la hausse d'une façon exceptionnelle. L'ancien tarif qui était appliqué était de 1 500 pour toutes les catégories des véhicules et les engins. Mais aujourd'hui, les tarifs sont fixés selon les poids. Ces tarifs varient aujourd'hui entre 150 000 à 500 000. L'attestation de recherche d'un véhicule qui n'était pas payé est fixée pour le moment à 10 000 pour l'obtenir, conclut l'ordonnance.
Réagissant à ce sujet, Faustin Koumane, expert en économie et directeur national d'ONG, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, estime que le seul moyen dont dispose le gouvernement était de revoir à la hausse les tarifs de ces documents pour mobiliser les fonds qui vont couvrir l'exercice budgétaire. Je vous propose de suivre Faustin Dikoumana, il est le président du PACSEM.
C'est une tentative du gouvernement de mobiliser assez de ressources pour faire face aux dépenses qui augmentent de façon exponentielle. La tentative alors de combler et de faire face à ces dépenses fait qu'il y ait justement l'augmentation de certaines recettes, notamment les recettes administratives. C'est dans ce sens que certains documents ont vu le prix augmenter. C'est dans le cadre de la mise en application de l'exercice budgétaire 2023-2024. Mais comme conséquence, si le coût des documents administratifs augmente, ça se répercute sur la vie des citoyens. Parce que le revenu est toujours ce qui est aujourd'hui, les citoyens n'ont pas d'autre marge de manœuvre. Ils subissent ce coût élevé, ce qui continue à peser le demain sur les budgets déjà faibles. Le problème est que même si cette augmentation de recettes administratives est là, et le problème du financement de déficit reste entier. Cela dit que le Burundi a des difficultés économiques actuellement énormes.
Même son de cloche chez l'association burundaise de consommateurs Aboko qui demande à l'État de consulter d'abord les consommateurs pour qu'ils puissent donner leurs avis avant de décider des prix, des documents ou des autres produits. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Niongere. Passez un bon dimanche chez vous et à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.